Vous êtes sur RTL.
Faire.
Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à vous d'être au rendez-vous chaque samedi matin de 9h15 à 10h sur RTL. Nous voilà bien, vous le savez, c'est un savant mélange d'infos pratiques, de recommandations, d'astuces et de recettes, avec une pointe de bonne humeur quand même pour délayer le tout. Alors restez à notre écoute pour bien démarrer votre week-end. Les commerces sont à nouveau ouverts, mais peut-on faire notre shopping comme avant? Le point avec Olivia Détroya, journaliste économie au Figaro. Qui dit déconfinement dit reprise du sport et des activités physiques, alors comment s'y remettre en douceur après 2 mois de repos forcé? Lionel Coudron, médecin, directeur de l'Institut de yoga thérapie et prof de yoga, vous donnera ses précieux conseils. Et puis certains ne peuvent pas commencer la journée sans lui, c'est un carburant et un rituel bien ancré dans le quotidien de millions de Français. On parlera du café qui sera à l'honneur aujourd'hui et c'est Hippolyte Courtier, producteur, torréfacteur, fondateur et gérant de l'Arbre à Café à Paris qui vous en révélera tous les secrets.
Bonjour, bonjour mesdames, nous sommes vos vendeurs, tout à vous corps et âme pour faire votre bonheur. Passez votre commande, vous vous apercevrez.
Ça y est, les boutiques réouvrent. C'est un déconfinement progressif depuis lundi. Alors justement, qu'en est-il réellement de nos commerces? On en parle avec vous, Olivia Détroya. Bonjour Olivia, soyez la bienvenue.
Bonjour Flavie. Merci.
Bon, vous êtes une déconfineuse, vous aussi, progressive, évidemment.
Exactement.
Et avertie, vous êtes journaliste économie, agriculture et agroalimentaire au Figaro. Alors, on va faire un point avec vous, hein, parce que parfois, on est un petit peu perdu. Les commerces, ils sont à nouveau ouverts, mais je dirais presque tous. Pourquoi les restos et les bars restent-ils fermés, en fait, Olivia?
Oui, Flavie, on sent que vous brûlez d'impatience hein, de ces apéros d'été.
Je suis pas la seule. Mais tout le monde, en fait, on a tous envie de se retrouver.
Oui, alors ça fait un peu grincer des dents, hein, parce qu'effectivement, ils sont plus de 200 000 bars, cafés, hôtels et restaurants en France qui restent fermés. Mais en fait, tout simplement parce que comme les cinémas, par exemple, ou les théâtres, ce sont des lieux qui accueillent du public. Alors, un peu comme tous les commerces, hein, vous me direz, les librairies, les magasins de jouets, de textiles aussi. Mais on a considéré que par nature, c'était des endroits où les gens se rassemblaient, ils se retrouvaient, ils avaient une proximité qui était un peu malvenue à l'heure où on parle que de distanciation sociale. Donc voilà, ils restent fermés, un peu comme les festivals d'ailleurs, ou les grands événements sportifs. Qui eux sont interdits jusque mi-juillet. Une petite lueur d'espoir quand même hein, depuis cette semaine pour nos restaurateurs, des zones vertes en tout cas, puisqu'ils pourraient réouvrir début juin. On sera fixé sur tout ça le 25 mai.
Voilà, et puis une pensée aussi hein, pour tout le monde de la culture, du théâtre, du spectacle vivant hein, qui est en souffrance aujourd'hui. On a hâte effectivement de retourner dans les festivals, d'aller voir des artistes sur scène et d'aller à des concerts. Vous parliez donc des raisons qui poussent justement au déconfinement très très progressif, je dirais, de ces commerces. Mais il y a des centres commerciaux qui sont ouverts.
Oui, il y a des centres commerciaux qui sont ouverts. D'ailleurs, beaucoup. Alors, ils le sont pas tous, hein, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de débats avant le déconfinement. En fait, tous les centres commerciaux qui font plus de 40 000 mètres carrés en Île-de-France, donc qui est une zone rouge par excellence, ne peuvent pas ouvrir. Alors, sauf les pharmacies ou les magasins alimentaires qui les abritent, parce que ce sont des produits de première nécessité. Donc, tout ça, ça touche essentiellement les grands centres commerciaux à Paris, comme les Halbes, Beaugrenelle, Italie 2, ou les grands magasins. Aussi, comme les galeries Lafayette ou Printemps Haussmann. Au total, ça fait une dizaine de grands centres qui sont fermés. Il faut noter que, en tout cas, s'ils sont à ciel ouvert, comme la Vallée Village à côté de Marne-la-Vallée, ils peuvent ouvrir. Et puis en zone verte, même s'ils font plus de 40 000 mètres carrés, les plus grands centres commerciaux peuvent ouvrir sur autorisation du préfet. Donc là, vous pouvez y aller.
Et j'imagine que bien évidemment, il y a des règles, il y a des marquages au sol qui contraignent finalement les clients à respecter cette fameuse distanciation sociale si importante aujourd'hui.
Exactement. En fait, il n'y a pas de conditions strictes, il y a juste une règle, il faut assurer la sécurité des clients et des employés évidemment. Donc, vous l'avez dit, c'est la distanciation sociale et les gestes barrières qu'on connaît bien maintenant. Le ministère du Travail a aussi donné des fiches très pratiques avec des recommandations. Donc, c'est souvent du gel hydroalcoolique à l'entrée, des sens de circulation, incitation. Alors ça, c'est pas très commercial, mais à ne pas toucher la marchandise, en tout cas si c'est vraiment nécessaire. Pas mal de plexiglas aussi aux caisses qu'on a pu voir si vous êtes allé faire vos courses. Mmh. Et puis dernière chose sur le masque, dont on a beaucoup parlé. Là non plus, il n'y a pas de règles. Ils ne sont pas obligatoires d'ailleurs, mais ils sont souvent recommandés. Et il y a même des enseignes qui ont décidé de l'imposer. C'est le cas notamment dans le prêt-à-porter, au moins pour les employés et puis pour les clients dans les cabines, notamment si on essaie les vêtements ou les sous-vêtements.
Ah bah justement, c'est ce que j'allais vous demander, parce que les boutiques de vêtements, comment est-ce qu'elles gèrent les cabines d'essayage ?
Alors, c'est un point très sensible. Oui. En général, pour ceux dont le textile n'est pas le métier principal, en général, ils ferment. Chez Decathlon, par exemple, ils ont fermé. Dans d'autres, notamment dans les enseignes textiles où on aime bien essayer, elles vont rester ouvertes, mais on en ouvrira 2 sur 3 ou 1 sur 2. Et puis, on limite l'essayage. Et puis, elles sont surtout désinfectées à chaque passage. Je ne sais pas si vous avez été faire vos courses, mais certains ont même mis des rideaux en plastique pour qu'on puisse vaporiser du spray antibactérien plus facilement. Donc voilà, pas mal de contraintes. Hein, et certaines enseignes ont même décidé de tout simplement pas ouvrir.
Oui, et puis qui doivent altérer peut-être aussi le plaisir, mais pour des raisons que l'on comprend évidemment, le plaisir de l'acheteur. Je reviens sur les vêtements, les cabines d'essayage. Admettons que j'y aille, que j'essaye des vêtements qui finalement ne me conviennent pas. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces vêtements ? Je les laisse dans la cabine ?
Pas du tout. En fait, ils sont un peu comme nous, les vêtements. Ils peuvent être mis en quarantaine. C'est-à-dire qu'une fois essayés, on les met dans un bac dédié à la sortie de la cabine et ils seront replacés en rayon qu'après avoir été passés à la vapeur ou alors avoir passé 24 heures en quarantaine. Si vous voulez pas aller en magasin parce que vous voulez pas prendre de risques, il y a aussi des enseignes qui vous livrent à la maison les articles. Donc, par exemple, 3, 5, 10 articles à essayer et qui viennent vous les reprendre.
Ceux qui
ne vous conviennent pas et souvent gratuitement. Donc ça, c'est des choses qu'on voyait peu avant la crise et qui, à mon avis, vont vraiment se développer dans les prochaines semaines.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a une offre de nouveaux services qu'on n'imaginait pas forcément tant qu'on n'avait pas vécu cette pandémie. Les magasins de chaussures, j'ai pas vu de magasin de chaussures ouvert, peut-être que j'ai mal vu.
Alors, s'il y en a qui sont ouverts, alors en fait, dans la chaussure, un peu comme dans le textile, d'ailleurs, les magasins ne sont pas complètement arrêtés. Pas mal ont fonctionné par drive ou par Internet. Hein, pendant la crise, ça a plutôt bien marché. Et maintenant qu'ils rouvrent, là aussi, on multiplie les adaptations. Donc, ça peut être des chaussettes ou des bas jetables pour essayer des chaussures, avec toujours ce principe de quarantaine pour les produits qu'on a essayés.
Ok. On va revenir à d'autres commerces qui, vraiment, je pense, ont généré, pour le coup, un grand, grand nombre de commandes.
Elles sont très attendues.
Ah bah, vous savez de quoi je parle ? Vous alliez dire quoi ?
Le coiffeur.
Ah bah, évidemment. Non, mais attendez, mais c'est un truc de fou.
On ne s'est pas vu encore, Flavie, donc je ne sais pas quel est le travail à faire, mais en tout cas, c'est très attendu.
Beaucoup, et je ne sais pas pour vous, mais on va s'envoyer une petite photo quand même, parce que la prochaine fois qu'on se verra, peut-être qu'on aura eu le temps justement de confier notre tête au coiffeur. Alors, ça a été quand même la ruée, hein, la cohue. Il y a des coiffeurs même qui ont ouvert à minuit le jour du déconfinement. On peut y aller comme avant ou pas ?
Alors, pas tout à fait, Flavie. Alors, vous n'y avez pas été, je crois, comprendre, mais en fait, ce que j'ai pu voir dans les commerces de services, ouais. On perd sérieusement en convivialité. Hein. Déjà, il faut souvent prendre rendez-vous, au moins les premières semaines. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pas mal qui ont élargi leurs horaires, avec parfois des nocturnes jusqu'à 22h, ce qu'on a pu voir. En général, au moins pour les personnels, c'est au moins des masques, des visières, des surblouses, des gants. On remplace le petit café habituel par du gel hydroalcoolique. Pour celles qui ont peur, il y a aussi des chaînes. Il y a des chaînes qui vous proposent de vous envoyer un SMS. Donc, vous attendez dehors que la cabine d'esthétique ou les bacs à shampoing soient désinfectés. Et on vous prévient quand tout est prêt pour éviter de croiser du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça a un coût. Notamment chez les indépendants, il faudra pas vous étonner si chez certains coiffeurs, votre coupe augmente de 3 ou 5 euros pour financer tous ces dispositifs.
Oui, j'imagine. On va se retrouver dans un instant, vous restez avec moi, hein, Olivia Détroya. On s'interroge aussi en fonction des zones géographiques, hein, la zone verte, la zone rouge, on a fait un point la semaine dernière, mais qu'en est-il réellement des commerces? Et puis le paiement, ça angoisse beaucoup de monde, vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. On se retrouve tout de suite pour Nous Voilà Bien.
Nous Voilà Bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
RTL.fr.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Et Nous Voilà Bien, c'est jusqu'à 10h. Merci d'être avec nous. En fin d'émission, vous saurez tout sur le café. Ce sera passionnant. Ce sera avec Hippolyte Courty, qui est producteur et torréfacteur de café bio. Lionel Coudron interviendra dans un instant. Il est médecin, directeur de l'Institut de Yoga Thérapie. Avec lui, on va parler de la reprise de l'activité physique après 2 mois de repos forcé, entre guillemets. Voilà, il faut quand même faire attention quand on se remet au sport. Mais pour l'heure, c'est un sport aussi, c'est le shopping. Le Le générique des reines du shopping. Christina Cordula, vous la retrouvez sur l'antenne d'M6. Olivia Détroya, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste économie au Figaro. On apprend plein de trucs avec vous. Et notamment qu'il faut vraiment, vraiment se dépêcher pour prendre un rendez-vous chez son coiffeur. Parce qu'en fait, ils sont bookés là pour toutes les semaines qui viennent. Donc on se dit pas, ouais, dans une semaine, je pourrais y aller spontanément.
C'est au moins 10 jours.
Revenons sur les zones géographiques, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a des différences en fonction de la zone dans laquelle on habite ? Nous, nous sommes en zone en rouge, on le sait bien, l'Île-de-France. Il en est d'autres qui peuvent profiter davantage. J'ai l'impression qu'ils sont en zone verte. C'est la même chose pour les commerces ?
Non, il n'y a pas de différence légale. Alors, à part sur les très grands centres commerciaux dont on a parlé tout à l'heure, le distinguo entre zone rouge et zone verte ne fait de différence que pour les collèges, les parcs et les jardins. Peut-être bientôt pour les restaurants, mais pas pour les commerces. En revanche, dans les faits, et vous le verrez si vous allez faire vos courses, il y a des différences, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a donné aux commerçants la responsabilité de la sécurité de son magasin. Donc c'est lui qui met en place les mesures qu'il juge nécessaires, selon la taille de sa boutique, le profit de ses employés ou de ses clients, le type de produits qu'il vend. Donc en fait, sur les Champs-Élysées, au début de semaine, il y avait que la moitié des commerces qui étaient ouverts. Donc dans les faits, il y a des différences. Donc si vous voulez faire du shopping sans être pris au dépourvu, peut-être appeler avant pour être sûr que c'est que ce soit ouvert. Ayez toujours un masque parce que ça, on pourrait vous le demander. Et puis si vous êtes en groupe, faites attention parce qu'on peut vous refuser des accès.
Évidemment. Ah, donc c'est ce qui explique la différence effectivement d'accueil
entre les commerces.
C'est incroyable d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'a surprise. Est-ce que ces mesures elles sont prises également au moment du paiement ? Chacun est responsable aussi des conditions de paiement ?
Oui, effectivement. Le but c'est toujours et encore de payer en sécurité. Bon, évidemment le risque zéro n'existe pas. Hein. Mais si vous hésitez à manipuler de la monnaie, vous pouvez toujours payer en sans contact. D'ailleurs, c'est de plus en plus proposé. Exactement, avec votre avec votre carte bleue ou votre smartphone. Et effectivement, le plafond maximal a été relevé de 30 à 50 euros. Dans la très grande majorité des cas, vous n'avez pas besoin de changer de carte. Et puis, si vraiment vous voulez éviter d'aller dans les magasins, vous pouvez toujours payer en ligne avec une livraison sans contact chez vous.
Mais justement, le shopping en ligne, là, c'est le grand gagnant de cette crise, non ?
Pas sur le non alimentaire. Étrangement, hormis sur les loisirs ou la high-tech, qui ont été des produits très achetés pendant le confinement, mais sur un an, le non-alimentaire est resté plus ou moins stable. En revanche, le vrai gagnant, ce sont les plans de courses en ligne que vous faites pour vous faire livrer chez vous ou en drive. On est passé au-dessus des 10% des courses alimentaires qui sont faites par Internet. Alors, ça peut vous paraître pas beaucoup, mais ça l'est. En tout cas, on est parmi les Européens, ceux qui achetons le plus nos courses en ligne depuis cette crise. Et là, je pense que ça devrait durer, en tout cas tant que les gens ne veulent pas trop aller en magasin. Et puis même plus tard, parce que les gens ont vu que ça marchait plutôt bien. Et ça, c'était un frein. Les gens pensaient que ça marchait pas, les courses alimentaires chez soi. Et en fait, ça marche plutôt bien, donc ça devrait continuer.
À suivre. Dites-moi, vous avez fait du sport, vous, pendant votre confinement ?
Oui.
La vérité, Olivia. Ah ouais, vous avez
non,
fait
la vérité. j'ai fait du pilates et de la danse.
Waouh, à la maison ?
À la maison, avec mes enfants.
Ah non, mais moi j'ai hâte de vous voir, vous avez peut-être
face
les cheveux longs, mais vous devez être magnifique, quoi. Ah, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Olivia Détroya, parce qu'on va parler du sport dans un instant. Donc
merci,
j'avais une pensée pour vous, je vous embrasse et à très bientôt dans ce studio.
À très bientôt.
Merci, salut Olivia.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bon, alors, c'est pas pour les plus jeunes d'entre nous, hein, évidemment. Mais souvenez-vous,
oui.
Le dimanche matin, on faisait du sport avec Véronique et Davina. Bonjour Lionel Coudron.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous en faisiez, vous, du sport devant Véronique et Davina ?
Oui, bien sûr. Oui,
ah ouais ?
Absolument. Je me suis branché dans les années 80 devant Véronique
Exactement.
Et Davina le dimanche matin.
C'était le rendez-vous dominical, exactement. Eh ben, c'est peut-être
oui,
ça qui a fait que vous êtes devenu médecin, directeur de l'Institut de Yoga Thérapie
non,
et professeur de
déjà.
Yoga. Le confinement, ça a été une épreuve pour notre morale, mais ça l'a été aussi pour notre physique quand même, Lionel Coudron.
Oui, alors voilà, tous ceux qui n'ont pas pu le faire, et c'est effectivement, se retrouvent maintenant, pour la plupart, avec un déconditionnement à l'effort, ceux qui avaient l'habitude de le faire.
Ok, d'accord. Et on va avoir du mal à rattraper tout ça quand on n'a fait aucune activité sportive ou même physique,
oui.
Quand on n'est pas sorti une heure par jour, quand on n'a pas préféré les escaliers à l'ascenseur ?
Alors oui, il faut un temps de réadaptation, parce que quand on est 2 mois immobile et lorsqu'on n'a aucune activité physique, il y a une perte assez rapide de muscles, tout simplement. C'est ce qu'on appelle un déconditionnement à l'effort. Mais je rassure aussi les personnes, c'est que si elles avaient un bon entraînement au préalable, elles vont retrouver rapidement, parce que le corps a quand même une mémoire et va ne demander que cela. C'est-à-dire retrouver sa forme de qui, en fin de compte, n'est pas si ancienne de ça, que cela. Il y a quoi, 2 mois, 3 mois, au maximum.
Ouais, mais, ouais,
donc, ça,
ouais,
va revenir,
ouais.
Ça va revenir. Ça va revenir.
D'accord. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on doit toujours se remettre quand même à une activité sportive avec précaution?
Là encore, de toute façon, il faut que chacun s'écoute. Et ce qu'il faut, c'est ne pas se dire, ben voilà, j'ai arrêté pendant 2 mois, demain je m'y remets, je retrouve exactement le même niveau. Donc pour cela, il faut être à l'écoute de soi. Et à l'écoute de soi, ça veut dire surtout écouter ses sensations corporelles, mais également écouter sa respiration. Et c'est notre respiration qui est souvent le meilleur baromètre de notre état. Si vous êtes essoufflé, si vous suffoquez, si vous haletez, ce n'est pas bon signe. Si votre corps, votre cœur commence à battre la chamade, ce n'est pas bon signe. Donc vous écoutez tous les signes que votre corps vous donne et à partir de là, vous adaptez votre niveau d'activité.
Alors justement, on va se retrouver dans un instant parce que vous allez nous en dire plus. Évidemment, on va prendre le temps de rentrer davantage dans les détails pour pouvoir reprendre cette fameuse activité physique et sportive en toute sécurité. À tout de suite, Lionel.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Soyez les bienvenus sur RTL. Peut-être que vous vous réveillez, vous profitez de ce samedi matin. On est ensemble jusqu'à 10h. Peut-être même que vous allez vous faire couler un bon café. Eh bien, dans un instant, vous saurez tout sur le café grâce à Hippolyte Courtier, qui est producteur et torréfacteur et qui répondra à mes questions. Mais pour l'heure, allez, il est temps de reprendre le sport.
Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Va y avoir...
Coudron, vous êtes donc médecin, merci d'être avec nous puisque vous êtes également professeur de yoga et vous nous donnez des conseils pour reprendre les activités physiques et sportives avec précaution. Qu'est-ce qu'on risque d'ailleurs si on reprend en fanfare là?
De se faire mal aux articulations, de se faire mal à nos muscles, c'est-à-dire d'avoir un surmenage articulaire ou musculaire. Surtout si l'on a pris un petit peu de poids pendant cette période. Or, paraît-il, d'après quelques études, qu'on a pris en moyenne 2,5 kg. Donc, on a une surcharge supplémentaire. Et oui, quand même, hein, quand même. Ouais. On a profité un peu de cette période.
Il y a eu relâchement, hein.
Il y a du relâchement. Ouais. Donc, il va falloir remettre de l'ordre. Et justement, alors, vous dites beaucoup le sport, mais je préfère le terme activité physique parce que le sport, c'est une activité physique, mais il y a beaucoup d'autres moyens d'avoir une activité physique et c'est cela qui prime.
La marche, par exemple, on a besoin de précautions quand même si on reprend la marche?
Si on était en bonne santé, si on avait déjà une activité, si c'est une reprise de l'activité, ça va se faire très facilement et très rapidement. Je veux vraiment rassurer tout le monde. On n'a pas, là, on n'a pas à effrayer les uns les autres. Maintenant, si l'on a effectivement pendant ces 2 mois, le Covid, si on a eu des maladies, si on a contracté, s'il y a des événements nouveaux qui se sont produits, si on ne s'est jamais mis à l'activité physique, est-ce qu'on se dit, ben maintenant, il faut vraiment que je m'y mette parce que je me rends compte que être en bonne santé, que l'activité physique fait partie de la bonne santé et que justement, je veux mettre toutes les chances de mon côté, alors il faut être prudent en fonction des troubles que l'on a, de l'âge que l'on a. Mais encore une fois, en étant attentif à son corps, en étant attentif à ses signes, logiquement, ça se passe vraiment de façon simple, facile. Dans la mesure, on ne va pas faire des exercices démesurés, bien sûr.
Mais Lionel, je pense à ceux qui font des sports collectifs, par exemple. Comment est-ce qu'on peut s'entretenir en attendant la reprise des sports collectifs ou ceux qui font du sport en salle?
Alors, il y a plusieurs éléments qui sont déterminants, en fait, pour maintenir notre niveau de physique. C'est tout d'abord la souplesse. C'est un élément qui est pas suffisamment développé, donc s'étirer, s'assouplir, et vous le rappeliez tout à l'heure, je suis professeur de yoga, et c'est bien pourquoi je connais l'importance de cette dimension-là, et entretenir sa souplesse participe à notre capacité sportive et d'activité physique. La deuxième chose, c'est tonifier ses muscles, et on peut tout à fait entretenir cette tonicité musculaire, même chez soi, mais aussi à travers la marche, aussi à travers un jogging lent que l'on adapte à son rythme respiratoire et avec du vélo. Et ce sont des sports qui sont individuels et que l'on peut tout à fait pratiquer. Et la troisième dimension qui est extrêmement importante dans l'activité physique, et sportive, c'est la capacité proprioceptive, c'est-à-dire connaître son corps, le bouger dans l'espace, lui donner cette intelligence. Et là encore, il s'agit de faire des exercices très simples que l'on peut faire même chez soi, qui sont des exercices d'ouverture, de fermeture, coordonner la respiration, exercices qu'on peut appeler comme le chien et le chat, des bascules du bassin, de fermer les yeux, de rester en équilibre. Vous voyez, la coordination, la proprioception, ce sont des éléments qui sont déterminants aussi dans l'activité physique.
Bon, hydratation essentielle.
L'hydratation est importante naturellement parce qu'on sait que lorsque l'on ne consomme pas suffisamment d'eau, lorsque l'on ne boit pas suffisamment, on va évidemment transpirer si on fait une activité soutenue. Et cette déshydratation, c'est le facteur clé de tous les accidents qui se produisent, qu'on a évoqué tout à l'heure, en particulier les problèmes tendineux, les problèmes musculaires. Ça, c'est un élément. Et le premier signe de la déshydratation, c'est la fatigue. Donc, dès qu'on se sent fatigué, il faut penser à boire. Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer. Il ne faut pas trop boire parce qu'on a vu également une hyperhydratation qui aussi est préjudiciable. Donc, boire raisonnablement. Lorsqu'on a une activité physique qui est au-delà d'une demi-heure, c'est normal. Et effectivement, il faut le faire.
Absolument. Bon, les courbatures aussi, c'est normal ?
Alors, les courbatures ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. Il y a deux sortes de courbatures. Ouais. Les courbatures qui surviennent le lendemain, toutes ces petites douleurs musculaires, elles sont liées au fait qu'il y a eu des petits déchirements au niveau de nos muscles. Et ces petits déchirements, parce qu'on a trop sollicité nos muscles, ils ne sont pas nécessairement négatifs. Et ça va se réparer. Donc, ces courbatures sont le signe d'une réparation musculaire. Et ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de refabriquer du bon muscle. Donc, il ne faut surtout pas, ce lendemain, quand on a des courbatures, prendre des anti-inflammatoires parce que ça irait à l'encontre, justement, d'accord, de ce que la nature est en train de mettre en place.
Ok, d'accord. Et alors, dernière chose, s'il y a des courbatures et que j'ai encore envie de faire du sport, je fais quoi ? Je peux en faire ou pas ?
Oui, tout à fait, absolument. Ah, okay, parce que d'accord, quand vous allez vous échauffer tout doucement, vous avez des courbatures, oui, encore une fois, qui sont juste le reflet d'une activité normale, mais qui était inhabituelle de votre muscle, vous allez pouvoir effacer cette douleur par un échauffement progressif et votre muscle va récupérer. Et vous n'allez plus avoir cette douleur. Maintenant, ce que je conseille, c'est de laisser passer 24 à 36 heures avant de refaire une seconde séance. Il faut laisser le corps récupérer. Et souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, il ne faut pas vouloir trop en faire. Si vous espacez votre activité physique de 2-3 jours, c'est amplement suffisant pour vous y remettre. Et vouloir le faire à outrance tous les jours, ça, c'est déconseillé.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils, docteur Lionel Coudron. Merci d'avoir accepté notre invitation ce samedi matin. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut de Yoga Thérapie. Vous êtes professeur de yoga et puis auteur d'un livre, Collection Yoga Thérapie, chez Odile Jacob. Le dernier, c'est la dépression et apparaître deux prochains, douleurs du dos et troubles respiratoires. Bah, dis donc, vous allez en avoir une actuelle, dites donc, docteur.
Oui, ça y est, c'est fait.
Vous me raconterez ça devant un petit café, ok ?
Avec plaisir. Bon,
allez,
courage.
À la prochaine, le café. On en parle tout de suite sur RTL.
Couleur, café, que j'aime ta couleur, café.
Bonjour Hippolyte Courty.
Bonjour Flavie, nous voilà bien.
Oh là là, mais dites-moi cette voix, c'est incroyable. Soyez le bienvenu, vous êtes producteur, vous êtes torréfacteur, vous êtes de bonne humeur, vous êtes fondateur et gérant d'un lieu dédié au café qui s'appelle l'Arbre à Café dans le 2e arrondissement de Paris. Est-ce que les Français sont de grands, grands consommateurs de café, Hippolyte ?
Sur le plan historique, parce que ça a été parmi les premiers depuis Louis XIV, grosso modo, Louis XV, on boit du café en France. En revanche, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les plus grands buveurs de café, ni en qualité jusqu'à maintenant, sauf évidemment les clients de l'Arbre à Café, mais effectivement, ni en quantité, ni en qualité. En quantité, on est donc dans le haut du panier mondial, si on prend tous les pays de la planète, mais on est au niveau des Italiens, chose étonnante parce qu'on a toujours l'impression que les Italiens boivent énormément de café. Mais on boit deux fois moins de café que les Norvégiens, que les Finlandais ou que les Suédois.
Alors donc, dans les pays du Nord, ils boivent beaucoup plus de café que nous. Est-ce à dire qu'ils ont compris que le café était bon pour la santé ? Il ne faut pas en abuser, moi, on m'a toujours dit ça.
Alors, c'est comme toute chose, il ne faut pas abuser trop. Il y a toujours, c'est la dose qui fait le poison, comme dirait Paracel. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, le café, il y a des overdoses de café. Dans les pays du Nord, justement nordique, on appelle ça le caféisme. c'est quand vraiment on dépasse des doses absolument incroyables de café. Mais on en est très loin en France. Alors ça fait quoi ? Ça pose ça crée de la tachycardie évidemment, mais il faut vraiment en abuser, aller jusqu'à 20 tasses par jour, vous voyez, pour que ça pose des réels effets. Et sinon, il y a plein d'effets bénéfiques qui sont assez méconnus de la part des buveurs de café eux-mêmes, à savoir que le café, et c'est souvent contrairement à ce qu'on croit, a des très forts et très bons effets hépatiques. Donc c'est très bon pour le foie. Le café. Ça a été démontré par des études de l'INSERM notamment. C'est très bon, c'est un très bon préventif aussi contre les maladies neurodégénératives, donc comme l'Alzheimer, ouais, par exemple. Et ça, quand on avance ce genre de chiffres et d'études, de faits, c'est vraiment des faits qui ont été prouvés et avec une récurrence extrême et des chiffres vraiment fortement établi par différents instituts de recherche.
Eh ben, dis donc, vous nous avez convaincus. On va se retrouver dans un instant parce que vous nous avez parlé du caféisme, mais on s'interroge, hein, jusqu'à combien de café puis-je boire par jour? Et puis, on reviendra aussi sur le bio, le pas bio, les styles de café, parce que parfois, on aime le café, mais on est un petit peu paumé. Donc, vous êtes là pour répondre à nos questions. À tout de suite, Hippolyte.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Vous. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
On parle du café jusqu'à 10h sur l'antenne d'RTL. Vous apprenez énormément de choses grâce à Hippolyte Courty. On a de la chance quand même, d'habitude il est au Panama, mais ce matin il est sur RTL.
Tu veux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir.
C'est ce qu'on peut vous dire le samedi matin, en fait, quand on s'adresse à vous, Hippolyte, parce que vous êtes producteur et torréfacteur. Est-ce qu'on vous demande si vous pouvez préparer le petit café noir ?
Ah, on peut préparer le petit café noir, on peut préparer des lattés, on peut préparer des cafés filtres.
Il y a tellement
de préparer...
choses. Mais par exemple, dans le commerce, quand je dois acheter du café, donc j'ai bien compris qu'idéalement, il ne faut pas l'acheter moulu, parce que autant le faire soi-même. Mais comment je peux reconnaître un bon café d'un mauvais ?
Si on ne va pas chez un spécialiste, on va aller vers des cafés certifiés. On parle du scandale du glyphosate partout, sur tous les produits, partout dans le monde, etc. Bah, sachez que dans le café, c'est un produit agricole comme un autre. Il y a autant de glyphosate que dans tous les produits agricoles, sauf dans les cafés certifiés comme bio ou Demeter, etc. Donc on va vers ces cafés-là. Un café pas cher est un café qui ne peut pas être bon non plus. Donc les premiers prix, il faut les bannir, en fait. Tout simplement parce que vous êtes en train d'enterrer au fur et à mesure les producteurs et ensuite parce que vous n'aurez pas la qualité, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et puis ensuite, il y a des grandes façons de choisir le café. Nous, on a un blog qui explique ça, et puis on n'est pas les seuls. Mais du coup, il y a des grandes tendances. Si vous aimez beaucoup la douceur, allez vers le Brésil. Si vous aimez beaucoup l'acidité et puis la tonicité, allez vers la Colombie. Si vous aimez beaucoup la légèreté, l'aromatique, allez en Éthiopie. Ouais, si vous aimez beaucoup quelque chose de consensuel, d'agréable à tous les moments, allez au Pérou. Et si vous aimez le très haut de gamme, allez au Panama.
Où vous allez souvent, d'après ce que j'ai compris.
Tout à fait.
D'accord. Et alors, bio ou pas bio, j'ai bien compris, vous nous expliquiez à quel point il était important d'avoir un produit de qualité. Pardon, je vais vous le dire comme ça, mais moi, il m'est arrivé de goûter des cafés bio qui, franchement, n'étaient pas bons, quoi. Avaient zéro saveur, zéro goût. C'était vraiment de la flotte colorée, quoi.
Oui, alors le zéro saveur, non, c'est vous pointez là du doigt un fait qui est intéressant, c'est qu'effectivement quand on achète un café bio, on s'attend à ce qu'il soit meilleur gustativement qu'un autre, et c'est pas toujours le cas, parce qu'en fait vous avez beaucoup de cafés conventionnels qui sont pas bons non plus, qui n'ont pas de saveur, etc., etc. Et dans les bio, en fait, vous avez un marché de labels, ce qu'on appelle, et donc on va simplement proposer un bio. Vous voyez, comme on pourrait avoir un pain qui serait pas bon, mais qui serait bio. Donc c'est déjà bien mieux qu'un mauvais pain conventionnel, vous voyez? Parce qu'il est au moins bio. Donc vous savez que vous ne faites pas de mal à la planète, ou moins.
Oui, absolument.
Et vous faites pas de mal non plus.
Aujourd'hui, justement, et ça, c'est tout notre travail depuis 2009 à l'Arbre à Café, c'est justement d'inventer et d'amener les producteurs les plus exigeants, les plus ambitieux sur la qualité, vers le bio, ou les producteurs bio vers la qualité. Ah, donc ça, c'est la synthèse entre la qualité à la fois gustative, environnementale et humaine, vous l'avez chez nous.
Très bien, c'est noté. L'Arbre à Café, donc à Paris, et puis votre site. Dernière chose, un déca, c'est un vrai café ou pas ?
Un déca, c'est un vrai café. Alors, c'est pas un café naturel. Il n'y a pas de déca naturel. Il y a une espèce parmi les 124 qui est sans caféine. Enfin, il y en a même plusieurs, pardon. Mais qui ne sont pas comestibles. Il y a différents procédés de décaféination. Et alors là, c'est pareil. Fuyez les premiers prix, fuyez les décaféinations chimiques, allez vers les décas à l'eau, ou si vous allez chez un torréfacteur, demandez-lui des process comme le Swiss Water. C'est fait en osmose inverse, ça préserve tous les arômes et vous ne verrez pas la différence avec un café non décaféiné.
Oh, c'était super intéressant, Hippolyte. J'espère qu'on aura l'occasion de vous entendre à nouveau sur l'antenne d'RTL parce qu'on ne s'est pas dit sur le café.
Très volontiers. On est là.
Ouais, c'est dans le 2e arrondissement, le 11e arrondissement de Paris. Et puis, vous avez écrit des livres également aux éditions du Chêne, un livre qui s'intitule tout simplement Café. Et les 101 mots du café chez Archibook. Merci beaucoup, Hippolyte Courty. Vous savez ce qu'on fait, nous, à la fin de cette émission ? Non, vous ne savez pas ce qu'on fait. Eh ben, on se fait des... Les bisous de Philippe Catherine. Voilà. Donc,
magnifique.
Je vous fais un bisou. Voilà. Et en plus de ça, en cette période de déconfinement progressif, on peut se les faire à la radio, on ne risque rien. Donc, je vous embrasse, Hippolyte. Je vous connais pas, mais je vous fais des bisous quand même. À bientôt sur RTL. Ouais, à bientôt. Au revoir. Nous voilà bien, c'est fini pour cette semaine. Alors, en attendant de nous retrouver samedi prochain, les replays de l'émission sont disponibles sur RTL.fr et en podcast sur les plateformes dédiées. Je vous donne rendez-vous lundi à 14h30 pour On est fait pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute d'RTL. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous.
Des bisous, des bisous.